Ah bah oui, voilà. Ah oui, c'était fou. C'est les gens s'installer. Bien, je vais commencer d'abord par une présentation générale. On voulait donc terminer cette journée d'études par une table ronde, prendre un peu de recul par rapport au terrain d'enquête qui ont pu être présentés et aux discussions autour de ces terrains d'enquête, mais aussi des pratiques professionnelles des dispositifs impliqués dans cette recherche étape. Donc prendre du recul, mettre en perspective, avec toujours ce principe d'associer compétences des chercheurs et point de vue plus institutionnel, avec ici quelqu'un de la région. Donc je vais vous demander tout simplement pour commencer de vous présenter rapidement. Voilà.
Merci. Donc André Gaudouin, conseillère régionale. Je suis vice-présidente de la commission formation professionnelle. Je dois dire que ça fait mon deuxième mandat dans la commission. Je suis à la formation professionnelle depuis 2004. Alors pour vous situer, j'habite la Mayenne. Alors quand on parle des questions de mobilité en milieu rural, je les retrouve aussi en ville. Alors donc, vous voyez, donc voilà, je participe activement aux politiques de formation continue.
Bien, bonjour, je suis Xavier Zunigo, je suis sociologue et directeur d'une agence de recherche qui s'appelle Aristat.
Éric Verdier, donc je suis sociologue et économiste au CNRS, au laboratoire d'économie et de sociologie du travail, Aix-en-Provence.
Merci. Donc on va procéder comme une vraie table ronde, hein, c'est-à-dire que je vais demander aux intervenants de donner des réponses relativement courtes pour qu'on ait, je dirais, dans le dernier quart d'heure, la possibilité d'échange avec la salle, puisqu'on doit s'arrêter à 5h30. Bon, si ça déborde un peu, je crois que ce ne sera pas trop grave. Alors, je voudrais commencer par, puisque le sujet, là, c'est l'histoire des politiques d'insertion et de la construction de l'offre de formation, je voudrais commencer par une interrogation sur, l'insertion des jeunes non diplômés ou non qualifiés ou peu diplômés, comme ça a été présenté ce matin. De quoi s'agit-il finalement de quoi s'agit-il quand on parle d'insertion? De quoi s'agit-il quand on parle aussi des catégories des jeunes ou de la catégorisation des jeunes concernés? Je vais peut-être demander à Éric Verdier d'intervenir sur cette question, enfin voilà, sur la question donc de la catégorisation ou des conventions sur lesquelles reposent ces catégorisations, ainsi que sur finalement la dénomination même d'insertion. Qu'est-ce que l'on peut en dire aujourd'hui, alors même que c'est une catégorie qu'on utilise très largement depuis maintenant plus de 30 ans.
On a 2 minutes pour faire ça, quoi.
Non, prends ton temps.
Alors, oui, c'est difficile de répondre à ces questions comme ça de but en blanc. Ce qui m'a frappé en écoutant les interventions de ce matin et les ateliers que j'ai suivis, c'est effectivement une forme de remise en cause de cette notion d'insertion telle qu'elle s'est développée et instituée en France depuis 30 ans, je dirais même 40 ans, hein. C'est lié notamment à la création du CEREG, du Centre d'études de l'emploi, donc des travaux en fait du commissariat au plan de la fin des années 60 et qui sont développés tout au long des années 70. Parce qu'on voit que cette notion d'insertion finalement renvoie à des logiques de placement des jeunes, hein, dans des dispositifs, avec souvent, on y reviendra peut-être, des formes d'affectation, si ce n'est d'imposition. Et puis, en partant de cette notion, finalement, de sortant du système éducatif, et ça fait un bout de temps, hein, que le CEREC s'interroge, hein, sur cette notion, et dans ses travaux, essaye de remonter sur l'amont. Donc on voit bien que c'est une notion qui devient un peu problématique, puisqu'elle intègre mal le fait que les parcours de formation, de travail, d'études, les allers-retours entre ces différentes positions deviennent non plus des exceptions comme autrefois, mais deviennent presque la règle. Et de ce fait, effectivement, l'acception anglo-saxonne classique de transition est plus souple. Les Allemands parlent de double transition, hein, quand ils s'intéressent au devenir de leurs jeunes. Ils parlent de transition entre, je dirais, l'école de base et le système de formation professionnelle, c'est-à-dire la possibilité sur un marché de l'apprentissage de trouver une place, et puis de deuxième transition qui intervient après donc l'obtention d'un brevet professionnel pour se présenter sur le marché du travail. C'est un petit peu dans cette direction, me semble-t-il, que les discussions nous entraînent, hein, sur avoir une acception peut-être plus souple donc de ce qui se joue dans ces parcours, mais et donc d'être aussi plus ouvert aux initiatives que prennent les personnes, les individus. Parce que la notion d'insertion, elle est quand même très fortement liée à des dispositifs institutionnels, me semble-t-il. Alors après, on peut revenir sur les conventions, mais c'est peut-être un autre débat.
Oui, tout à fait. Mais justement, ces dispositifs institutionnels ne définissent-ils pas finalement un périmètre relativement fluctuant, voire flou? La question de l'insertion ou de la transition professionnelle, est-ce qu'elle concerne les jeunes de la même manière? On voit bien non. Alors maintenant, comment on peut identifier finalement le développement, le déploiement des dispositifs plutôt en direction des jeunes les moins dotés, hein, comme l'école de la deuxième chance, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui.
Je réponds aussi. Je répondrai en faisant peut-être un détour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle qualifié, non qualifié, peu qualifié. Il me semble que c'est quand même un vocabulaire qui est relativement peu stabilisé. Et quand on, là aussi, quand on écoute les interventions, on voit bien qu'il y a différents registres. Moi, j'aurais tendance à en identifier au moins 5, si ce n'est 6, et qui peuvent se cumuler ou éventuellement être alternatifs les uns aux autres. Ça dépend des situations. Mais il y a le niveau d'études et de connaissances générales. C'est comme ça, d'ailleurs, que s'est construit la notion de qualification. En France, Céline Goffet, il faisait allusion, pas plus qu'allusion, elle donnait des chiffres assez précis ce matin. Hein, c'était le fait de ne pas avoir atteint un certain niveau d'études, hein, puisque vous étiez qualifié si vous aviez été en seconde générale, mais vous n'étiez pas qualifié si vous aviez été simplement en première année de CAP, hein, à l'époque, par exemple. Hein. Il y a une deuxième acception qui, elle, est montante, me semble-t-il. C'est de ne pas se contenter, se limiter au niveau d'études, mais s'intéresser à un niveau attesté de compétences générales. C'est tout l'enjeu autour de PISA. PISA, c'est bien de dire, au-delà des appellations formelles liées aux dispositifs institutionnels, éducatifs des différents pays et des différentes structures éducatives, qu'est-ce que finalement détiennent ou détiendraient les jeunes en question? Et ça, c'est une autre modalité. Et l'enjeu à ce moment-là, c'est quels sont les dispositifs qui favorisent ces acquis, qui ne les favorisent pas, et quelles sont d'ailleurs les conventions qu'on met derrière détient des compétences en lecture, en sciences. C'est un autre débat dans lequel je vais pas rentrer, mais on voit bien que c'est devenu une exigence maintenant forte. Il y aurait une troisième acception, ça serait la détention, je dirais, de savoir constitutif de la maîtrise d'un métier, c'est-à-dire des compétences effectives, des savoir-faire effectifs. Et c'était bien ce qui était un peu en jeu dans les discussions autour des missions locales, c'est-à-dire d'amener des jeunes à détenir effectivement des compétences, je dirais, valorisables. L'obtention d'une certification générale et professionnelle, ça c'est la question qui a été abordée ce matin, des diplômes, et avoir un diplôme, il faut avoir un diplôme. On pourra y revenir, mais est-ce qu'un diplôme est vraiment l'indicateur d'une qualification au sens des compétences? C'est un débat. Je me souviens que, je ne sais pas si ça existe encore, qu'il y avait à un moment donné des CAP dits parcours. On pouvait rentrer dans des CAP parcours, ce qui voulait dire qu'ils ne se suffisaient pas à eux seuls, il fallait déboucher sur autre chose. Donc c'était effectivement un dispositif transitionnel. Donc la certification en elle-même n'était pas une garantie. Puis quand on regarde un certain nombre de chiffres du CEREC sur l'insertion, on voit bien qu'il y a certains diplômes dont on peut se demander si véritablement ils attestent en fait d'une certification véritablement reconnue. Je pense par exemple, on ne les appelle plus comme ça maintenant, mais au bac pro bureautique, où on sait, le CEREC l'a montré depuis 20 ans maintenant, que eh bien, c'est pas à ce niveau-là que recrutent les employeurs. Ils recrutent dans la plupart des cas au niveau BTS, et c'est donc un tout petit peu problématique de maintenir ce type de, peut-être, ce type de certification en disant que ce sont des diplômes et que ça suffit, voilà, pour être dit qualifié. Bon, on pourrait, voilà, comme ça, multiplier, je crois, les approches. Il y a évidemment aussi le fait d'avoir une certification reconnue dans une convention collective, ce qui est encore autre chose. Et les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Donc les conventions, le choix des conventions, effectivement, au niveau d'études, on tombe à 5% si on prend l'ancienne exception. Les non-diplômés, on va tomber à 17%, on va monter à 17% à la sortie du système éducatif. Et puis on a ce curieux benchmark européen que Céline au fait présentait aussi, où on se retrouve avec donc 12,5% à peu près. Mais il suffit d'être en formation. Moi, je ne vous dis pas quel type de formation. Ça peut être simplement une formation qui dure un mois et ça suffit pour donc ne pas être considéré comme sans diplôme. Bon, ce sont des conventions qui sont un peu piégeuses, hein, quand on veut traiter des questions d'insertion ou de transition sur le marché du travail. Donc la question de savoir si, par exemple, une certification dénote d'une capacité effective à rentrer dans l'emploi peut être aussi un autre critère. Et c'est comme ça que se sont développées, d'ailleurs, la catégorie, un petit peu, ce que j'appellerais les ni-ni-ni, et donc en anglais, c'est « not in education employment and training », voilà, merci. Où là, la France, d'ailleurs, est assez mauvaise. On a 20% à peu près des 20-25 ans qui sont, ça bouge pas depuis 12-13 ans, qui sont NEET, quoi. Bon, voilà. Donc voilà des critères qui amènent peut-être à poser des problèmes différents aux politiques selon donc l'indicateur que l'on mobilise.
Merci pour cette transition vers le politique, puisque ma deuxième question irait plutôt vers vous, André Gaudouin, sur l'importance des dispositifs de formation auprès des jeunes dans la région des Pays de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous faire un état rapide, bien sûr?
Rapide, voilà. Rapide, j'ai bien compris. Tout d'abord, je dois dire que depuis le début de la journée, je me dis, nous, élus en région Pays de la Loire, on est très certainement en phase avec ce qui s'est dit beaucoup aujourd'hui. Et ça me réconforte. Quand nous, on dit en certains parcours de formation, notamment le parcours d'orientation et je me qualifie, je m'oriente, ça s'adresse aux des jeunes peu ou pas qualifiés. C'est un terme qu'on utilise régulièrement. Donc, je le vois écrit aujourd'hui, je me dis, on doit être en phase avec ce qui se dit, ce qui s'écrit. Alors, par rapport à la question que vous me posez, hein, comment nous, région, tout d'abord, sur les 30 000 stagiaires environ de la formation continue, on en a 10 à 11 000, ça s'adresse à des jeunes. 10, ce sont des jeunes. Donc en orientation ou en préqualification ou qualification. Donc le tiers, on dit même près de 40%. J'en parlais avec Dominique Debre ce matin, là, à peu près 40%. Donc ça veut dire que nous, élus politiques, on doit s'interroger comment on doit faire avec ces jeunes qui sont là sur le marché du travail ou en orientation. Dans notre nouveau programme, hein, les organismes de formation présents le savent bien, on a mis la notion de parcours, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, c'est « je m'oriente, je me qualifie ». C'est-à-dire que le jeune qui entre dans une formation, il s'approprie réellement la démarche. « Je m'oriente, je me qualifie ». Et ensuite, je me prépare pour me qualifier. Donc, c'est cette notion. Et moi, j'avais, dans notre esprit, nous, élus politiques, on sait bien que, de toute façon, la qualification, c'est vraiment le passeport pour l'emploi. Bon, on me dit, pas forcément, pourquoi pas, mais nous, politiques, c'est encore bien, la qualification, c'est le passeport pour l'emploi et l'emploi durable. Quand on a besoin de boulanger, quand on a besoin de pâtissier, quand on a besoin de boucher, on ne peut pas y aller sans qualification. Aujourd'hui, on a des petites, moyennes entreprises, je pense en milieu rural, où on a des boucheries à reprendre, ou des métiers comme ceux-là. Donc, c'est bien la qualification. On ne peut pas y aller les mains vides. Hein. Voilà. Donc, comment on s'y prend pour faire ça? Parce qu'en fait, ce n'est pas nous, à la région, dans nos petits bureaux, qu'on va... Et donc, ce qui est très important, c'est le dialogue avec, avec les chambres des métiers, avec tous les partenaires de économiques, les clubs d'entreprise et autres. Ça, ça me paraît être important de pouvoir créer nos formations en adéquation avec les besoins. On ne va pas créer des formations où demain, il y a autant de chômeurs. Ce n'est pas la peine. Donc, l'adéquation avec les besoins du territoire, des métiers. J'en arrive aussi à cet aspect qui nous va être important, c'est la gouvernance. Comment on s'y prend pour construire tout ça dans chaque territoire, par métier. Donc, vous voyez, c'est une feuille de route qu'on s'est donnée, nous, élus, à la région. On sait bien qu'on a des métiers qui sont en déficit d'image. C'est le métier de l'industrie. On est en déficit d'image. Donc, comment on s'y prend pour discuter, pour parler, pour ouvrir les entreprises aux jeunes, on en a parlé tout à l'heure. Comment on va s'y prendre pour donner une meilleure image? Et donc, c'est bien avec les entreprises, les partenaires sociaux qu'on va impulser un dialogue et puis permettre des jeunes de se former et de s'orienter. Alors moi, je pense également qu'un jeune a le droit de se tromper. Un jeune, voilà, il dit « j'ai envie de faire boulanger, seulement je fais un stage et je ne savais pas trop ce que ça voulait faire. » Je ne sais pas. Eh bien, il a le droit de se tromper. Mais alors, là, ce sont les accompagnements dont nos partenaires, Mission Locale, Pôle Emploi, pour justement permettre à un jeune de rebondir et de ne pas rester au chômage. Rien de plus grave qu'un jeune qui reste au chômage 1 an, 2 ans, 3 ans, sans perspective. Donc, nos partenaires, Mission Locale, Pôle Emploi, voyez, tous les acteurs de l'emploi, de la formation, de l'économie, qu'on active, en fait, finalement.
Alors, vous venez de parler du travail d'orientation et d'accès à la qualification qui peut être réalisé par des structures comme les missions locales. Je crois que Xavier Zunigo, vous avez particulièrement travaillé sur cette question. Finalement, comment ça se passe? Quels résultats peut-on attendre de ce travail réalisé par les dispositifs qui accueillent les jeunes les moins diplômés?
Bien. Bon, j'ai déjà le travail, je vais vous dire si ça marche ou pas. Oui, très bien. Donc, en fait, effectivement, moi, mes travaux de recherche ont porté sur les missions locales et le marché de la formation, c'est-à-dire les marchés des institutions d'insertion. On est confronté à un maillage dense hein, d'institutions, un foisonnement de dispositifs qui connaissent des évolutions historiques importantes, rapides, ça change très vite. Mais si on se place d'un point de vue sociologique, je pense qu'on peut repérer, en tout cas c'est le pari que j'ai fait, on peut repérer des modes de fonctionnement qui sont structurellement similaires. Voilà. Donc la première chose, je le dis toujours en premier parce que souvent on pense que je suis très critique de ces dispositifs, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc la première chose que je dis sur les effets, c'est que c'est des dispositifs qui permettent d'assurer, qui offrent un filet de sécurité minimal à tout un ensemble de jeunes qui sont plutôt en mauvaise situation sur le marché du travail. Hein. C'est le filet de sécurité minimal, c'est l'accès à des aides, à des droits, etc. Donc c'est un point qui est déjà très, qui d'après moi est très important. Ensuite, c'est pour comprendre l'efficacité de ces dispositifs, que ce soit la formation professionnelle, les dispositifs d'orientation, d'accès à l'emploi, il faut aussi intégrer, enfin prendre en compte le fait que la finalité échappe aux personnes qui mettent en œuvre les dispositifs. Voilà. Ceux qui emploient, ce sont les employeurs, ce ne sont pas les formateurs et les conseillers. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même... c'est-à-dire que les leviers d'action sont quand même assez limités. Voilà. C'est quand même in fine l'employeur qui décide. Ensuite, en général, j'ai du succès à ce moment-là. Les dispositifs peuvent fonctionner, mais souvent ne fonctionnent pas et connaissent l'échec. Or, d'après moi, l'échec est un succès des dispositifs. Je vais m'expliquer. Dans une perspective morale, c'est naturellement très regrettable qu'un jeune n'obtienne pas un emploi, n'obtienne pas une formation, soit dans une logique d'échec. Si on s'élève un petit peu par rapport à ces résultats immédiats, l'échec, en fait, assure, enfin permet de, d'assurer une des fonctions principales de ces dispositifs, à savoir que ce sont des dispositifs en fait qui visent, vous parliez de parcours, je parle de logique d'étayage, à étayer les dispositions socio-professionnelles des jeunes et donc progressivement à baliser et borner le champ de leurs possibles socio-professionnels. Donc un stage occupationnel, un stage qui ne fonctionne pas, la non-obtention d'un emploi, en fait, sert à redéfinir, c'est ce que Mathias Millet expliquait dans un autre domaine, Casserolet, à redéfinir les aspirations socio-professionnelles des jeunes. Donc ce n'est pas forcément un échec. D'ailleurs, on le voit, les conseillers de mission locale, quand ils sont face à des jeunes un peu retors et difficiles, renvoient ce public sur le marché du travail, sur le marché de la formation pour que le réel fasse son effet, c'est-à-dire que voilà, on se prend des portes fermées et ensuite on redéfinit ses aspirations. Donc c'est assez difficile d'apprécier l'efficacité réelle de ces dispositifs. Ce qu'on constate dans toutes les études, c'est que, et c'est la même chose pour la sociologie de la déviance, enfin des pratiques déviantes, délinquantes, il y a des courbes, voilà. Donc il y a un temps où on ne s'insère pas, et puis il y a un temps, bizarrement, à partir de 25 ans, où les courbes chutent et où les jeunes s'insèrent. C'est-à-dire, finalement, ça marche, quoi. Finalement, ils s'insèrent, comme dirait Baudelot. Et c'est juste, d'après moi, que ce travail d'étayage, donc des dispositions socio-professionnelles, des aspirations, il sert à accompagner un âge de la vie qui est celui de la jeunesse en milieu populaire, qui est un peu plus condensée que dans d'autres milieux, qui se caractérise dans un premier temps par des formes d'apesanteur sociale. Voilà. Donc on est un peu détaché d'un ensemble de contraintes sociales, on vit encore chez soi, on n'est pas encore en couple, on n'a pas d'enfants, et donc on peut se permettre un ensemble de choses que certains sociologues appellent des expérimentations. Et puis arrive un temps où il y a l'assignation à position socio-professionnelle, en tout cas la confirmation de certaines positions sociales. Et donc les dispositifs, ils accompagnent ce passage progressivement en permettant d'avoir un filet de sécurité et si possible d'acquérir une qualification. Il y en a plein qu'en ont, donc qui en bénéficient, et puis d'obtenir des emplois de temps en temps. Donc voilà ce que je peux dire. Et ensuite, l'erreur souvent, c'est qu'on analyse l'efficacité de ces dispositifs en analysant les dispositifs en eux-mêmes et pour eux-mêmes, alors que ces dispositifs sont des institutions sociales parmi d'autres et qu'il y a des institutions sociales beaucoup plus puissantes pour définir et redéfinir les aspirations sociales des jeunes, à savoir la famille, les groupes de pères. Les conseils de copains, c'est bien plus efficace que les conseils d'un conseiller de mission locale. Le milieu du travail. Enfin, il y a tout un ensemble d'institutions comme ça qui font chorus et qui rappellent quel est l'avenir probable. Voilà. Et la plupart des jeunes connaissent d'ailleurs leur avenir probable. Donc l'efficacité, voilà comment moi je la mesurerais. Voilà.
Donc finalement très très contextualisé aussi par rapport à un territoire.
Oui, très contextualisé. Oui, c'est un peu c'est vrai que c'est condensé. Oui, c'est-à-dire que pour comprendre l'efficacité des dispositifs d'insertion, il faut les réinscrire dans toutes ces institutions sociales, c'est-à-dire construire un point de vue sociologique sur l'efficacité d'un dispositif public, d'une politique publique. Ça implique donc de comprendre les contraintes qui pèsent sur les professionnels qui émanent d'une part des logiques du champ politique. Voilà. Quelles sont les attentes, par exemple, du Conseil régional en termes de sortie positive. Quand vous parlez de la qualification, on sait très bien qu'il y a des organismes de formation qui sont obligés d'être très sélectifs parce que derrière, ils doivent assurer leur taux de sortie positive. Donc, il y a un ensemble de jeunes qui restent sur le carreau pour ça. Ça veut dire prendre en compte aussi les caractéristiques du champ économique local. Est-ce qu'il y a des entreprises ou pas? Quel type d'entreprise, etc. Enfin, il y a plein de travaux du CEREC qui montrent ça très, très bien. Il y a les logiques interactionnelles. Donc ça, c'est ce sur quoi moi je travaille en particulier, à savoir comment ça se passe dans les interactions avec les professionnels. professionnelle. On sait que les logiques d'engagement dont vous parliez dépendent très fortement des qualités attribuées aux professionnels auxquels les jeunes ont affaire. Et puis, il faut prendre les stratégies des jeunes aussi. Donc, les jeunes déploient des stratégies pour obtenir satisfaction. Donc ça commence à faire beaucoup de variables et il faut prendre les ensembles de l'action, enfin l'action des institutions sociales dont je parlais, famille, groupe de pères, etc., etc. Donc effectivement, c'est à contextualiser.
Merci. Alors sur cette dimension territoriale, Éric Verdier, qu'est-ce que l'on sait de sa structuration ou de sa différenciation en France, en prenant justement un petit peu de recul et en ne restant pas donc simplement dans les pays de la Loire.
Là aussi, c'est un peu complexe peut-être de répondre à cette question. Peut-être en mobilisant là aussi plusieurs clés d'entrée. C'est-à-dire que je pense que ça a été bien montré d'ailleurs tout au long de la journée, les logiques de l'offre. Il y a une logique territoriale de l'offre qui donc est une manière de construire le territoire, et Dieu sait si en France, effectivement, la logique de l'offre est forte, logique endogène à l'offre, avec des fonctions qui sont parfois assez éloignées, finalement, de la construction d'un lien avec la qualification, où il s'agit de maintenir des places parce que les appareils sont là. Je crois que les travaux, par exemple, de Thierry Berthet, qui avait assez bien montré ça, à quel point sur des territoires précis, le fait qu'il y ait telle offre de formation professionnelle faisait que une partie des jeunes de ces territoires, surtout s'ils étaient enclavés, sont affectés en quelque sorte à ces places dans des spécialités qui ne sont pas forcément celles vers lesquelles ils iraient spontanément, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs un gage après de prévention du décrochage. Mais ça peut être aussi une fonction plus diffuse d'absorption de la démographie scolaire. C'est une grosse machine, la démographie scolaire. Et quand on a travaillé avec Hélène Buisson, une collègue donc de Lyon, sur la régulation des cartes, et on a été de formation, et on a été beaucoup frappé dans les deux régions sur lesquelles on a travaillé, c'est-à-dire pas la région Pays de Loire, du fait que la question de la manière dont on alimente par un vivier de jeunes, c'est-à-dire la détermination des viviers, des lycées, par exemple, professionnels ou technologiques, par rapport aux collèges existants, c'est une mécanique qui, je dirais, produit finalement un développement de l'offre qui est assez indépendant, qui est pour partie indépendant, je dirais, des enjeux qualificationnels à proprement parler. Et par exemple, c'est comme ça qu'on a pu expliquer pourquoi, à un moment donné, c'est plus le cas aujourd'hui, mais ce fameux bac pro bureautique, un bac pro, il y en a 87, je crois, ce bac pro représentait 40% des flux de formés, des bacheliers professionnels. Aujourd'hui, ce n'est plus que 20%, c'est encore beaucoup. 20 autres pourcents étant occupés par commerce-vente qui ont l'intérêt d'être faciles à monter, pas très chers. Et donc, c'est idéal pour absorber la démographie scolaire. Mais cette logique de l'offre, voilà, on la retrouve aussi dans certains CFA qui vont perdurer et construire, même si c'est plus compliqué, parce qu'il faut quand même signer un contrat avec un employeur, mais ça marche aussi, ces logiques endogènes. Il y a une deuxième manière, c'est de rentrer par les identités territoriales. Bon, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Vous êtes dans une ZUS, toutes choses égales par ailleurs. C'est ce qu'a bien montré Thomas Coupier, là aussi, au CEREC. Vous avez relativement moins de chances, surtout si vous êtes non diplômé dans une ZUS. Si vous êtes diplômé d'enseignement supérieur, vous avez un désavantage relatif assez faible. Par contre, par rapport à quelqu'un qui est dans un autre type de territoire. Si, par contre, vous êtes non diplômé, alors là, vous avez un désavantage qui est très fort. Mais on pourrait aussi parler des territoires ruraux, où effectivement l'offre va être moins, je dirais, diversifiée, et donc de ce fait va s'imposer d'une certaine manière aux jeunes. Puis il y aurait une troisième entrée, mais je ne vais pas être long, parce que ça a déjà été évoqué, c'est par les dispositifs eux-mêmes. Tous les appareillages, on a vu à quel point dans un atelier c'était compliqué d'articuler la MGI, la mission générale d'insertion, et la mission locale, et qu'il y avait des jeux qui, disons, où l'intérêt des jeunes n'est peut-être pas finalement la valeur première dans cette affaire-là, puisque c'est avant tout des positionnements institutionnels qui vont déterminer qui est captif de qui. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant.
Donc tout cela relativise malgré tout, si j'entends bien, la question de l'adéquation entre formation et besoin en qualification dont vous parliez tout à l'heure. Alors, comment la région, je reviens donc au Pays de la Loire, comment la région prend en compte ces dynamiques, je dirais, endogènes, propres à l'appareil de formation, et ces dynamiques complexes dans lesquelles s'articulent, bien sûr, les logiques d'acteurs, mais aussi des logiques institutionnelles autres que celles des appareils de formation.
C'est vrai que sur le territoire, sur le terrain de la formation, de l'insertion professionnelle, on a beaucoup d'acteurs. On a beaucoup d'acteurs. Pour nous, ce qui est région élue, moi j'ai envie de dire c'est une chance. Moi je le dis comme ça, c'est une chance. Que ce soit les missions locales, les organismes de formation, les clubs d'entreprise, les chambres consulaires, Enfin, moi, je me dis, on a beaucoup d'acteurs sur le territoire et le tout, c'est de mettre tout ça en synergie et puis de s'atteler au vrai problème. Le problème aujourd'hui, c'est bien le chômage des jeunes. C'est bien celui-là. On doit s'y attaquer. Moi, je me dis, ce n'est que vers la qualification qu'on doit y arriver. On a tout de même un chiffre qui enfin, quand on est élu, ça pose question. Moi, ce n'est pas pour me satisfaire si je mets en place la formation. C'est pour répondre à un besoin réel. C'est un devoir en tant qu'élu de regarder ce qui se passe par rapport au chômage ou par rapport à cette demande des jeunes, quoi. Bien sûr, on a aussi la région, c'est l'apprentissage, c'est la formation continue. La moitié de notre budget, c'est la formation, hein. Donc, on a des politiques qui se... Et puis, un certain nombre d'acteurs qui fait que pour moi, je le dis et je le répète, c'est une chance. Oui.
Xavier Zunigo, par rapport à ce qui avait été dit ce matin, vous n'étiez pas là, mais, hélas, mais je crois que c'est vous ou la représentante de la ville qui a rappelé un sondage, enfin qui a présenté un sondage très très...
Oui.
C'est vous qui aviez présenté un sondage très défavorable sur l'image que la population aurait de la formation continue. Et donc, finalement, malgré la dimension positive de cet appareil de formation que vous indiquiez là, sur le développement des capacités socio-professionnelles des individus, comment on peut expliquer à la fois cette mauvaise image, les évaluations souvent négatives, souvent d'ailleurs mises en avant pour montrer que le problème n'est peut-être pas là et que finalement on dépense peut-être beaucoup d'argent pour pas grand-chose, etc., etc. Comment on peut expliquer tout ce discours-là alors même que, vous l'avez montré, par exemple, les dispositifs de type mission locale assurent à la fois donc un filet de sécurité, mais aussi développent un certain nombre d'aptitudes.
Bon, je suis rassuré par la fin, j'ai cru que j'allais devoir commenter un sondage, ce qui pour un sociologue est toujours délicat. Très bien, en fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart des sociologues, en fait, ça a été rappelé dans les bouts d'atelier de ce matin auxquels j'ai pu assister à cause du TGV, c'est que c'est assez dur d'enquêter les jeunes dans ce milieu. Donc on rentre souvent par les institutions. Il y a beaucoup de travaux donnent une vision très institutionnelle des dispositifs. Donc si on écoute les professionnels, si on construit un savoir sociologique sur ce champ, ça apparaît comme des dispositifs de socialisation professionnelle. Quand on arrive à discuter avec les jeunes, on s'aperçoit que les intentions socialisatrices des institutions deviennent extrêmement évanescente, c'est-à-dire qu'ils s'en fichent, c'est un mal nécessaire, si vous voulez. Et les jeunes sont focalisés l'obtention de prestations, on peut employer ce terme, en tout cas d'aide immédiate. Voilà. Tout conseiller de mission locale vous dira, un jeune, il arrive, il dit « je veux un emploi ».
Bon, tout le travail du conseiller, c'est de redéfinir cette demande et de la projeter dans un temps beaucoup plus long. Ça permet, ce petit exemple, de comprendre l'insatisfaction d'un certain nombre de jeunes quant aux intentions des institutions. Voilà. Il y a un codage comme ça qui est complètement étranger à la logique des jeunes. Ça explique les logiques de butinage, que vous mentionnez, de Laurent Rio. Voilà, ils passent d'une institution à une autre pour obtenir l'aide qu'ils veulent. Pourquoi ? Un, parce qu'ils sont dans une logique de survie, et deux, sans faire de catastrophisme, en tout cas, besoin d'une aide relativement immédiate, un logement, etc., par exemple. Et donc, ils veulent il y a une satisfaction immédiate qui est attendue par les jeunes, pour des raisons tout à fait légitimes. Hein. Si vous êtes à la rue, si vos parents vous mettent dehors, il vous faut un boulot, etc. Donc, ça peut expliquer le différentiel. Sur les missions locales aussi, il y a la tendance à la concentration, par exemple. Avoir. Donc, j'ai vu ça récemment, c'est-à-dire à faire des grosses machines. Alors qu'on sait, je pense par exemple aux travaux d'Isabelle Coutan, j'ai vu ça aussi dans mes travaux, que l'engagement personnel des professionnels de l'insertion est une des valeurs sur lesquelles, une des qualités jugées par les jeunes. Voilà. Et les grosses machines ont plutôt tendance à faire de l'abattage administratif de type Pôle emploi, voilà, qui est assez décrié. Donc ça s'explique, cette insatisfaction, je pense, par des logiques qui sont diamétralement opposées. Et quand elles ne le sont pas, c'est que souvent, il y a des stratégies souterraines qu'on a du mal à saisir quand on est un conseiller ou un formateur et qu'on arrive sur du temps long d'enquête à saisir parfois. Voilà.
Merci. Alors, le temps passe, donc on va peut-être laisser maintenant un temps à la salle, puisqu'on a abordé pas mal de questions, à moins que vous souhaitiez l'un ou l'autre réagir par rapport à ce qui a été dit.
On va laisser la salle réagir.
Peut-être. Alors, voilà, des questions par rapport à... Alors, on a bien conscience qu'on a butiné hein, là, hein, sur beaucoup de thématiques différentes. Je pense que c'est aussi les limites de l'exercice, mais on a encore un petit peu de temps. Hein, je pense qu'on peut déborder. On a 10 minutes. Voilà. Ah oui, l'histoire de train, oui. Ah oui, complètement. Non, mais j'en ai encore plein, mais je ne veux pas non plus monopoliser le débat. Le temps que les questions arrivent, il y a une dimension qui est apparue de manière un peu transversale là, sur beaucoup d'interventions. C'est au fond le fait que cette problématique-là des dispositifs de formation des jeunes en difficulté, aujourd'hui... Il y a une dimension internationale, européenne, enfin avec un certain nombre de normes, que ce soit en termes d'objectifs, hein, de benchmark, là, sur justement le fameux taux d'abandon scolaire européen. J'aurais voulu savoir si, par exemple, au niveau de la région ou alors au niveau des pratiques de terrain, il y avait justement l'influence ou le sentiment d'être influencé. L'idée que finalement les normes politiques, je pense en particulier par exemple à l'accès au FSE hein, pour les missions locales, enfin Fonds social européen, et donc tout le travail, je crois, d'ingénierie financière qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que c'est présent ou alors est-ce que c'est finalement complètement périphérique?
Dans le cadre du FSE, c'est tout à fait en train de se réorganiser là. On a justement une journée la semaine dernière, je crois, au sujet du FSE qui va nous revenir dans le cadre de la formation. C'est-à-dire, on aurait 30%, l'État, le reste. Moi, je pense que la formation doit s'inscrire. On est en Europe. ça doit s'inscrire justement dans un contexte européen. Nous, aux régions, on est dépendant aussi des politiques de l'État pour tout ce qui est la formation, c'est l'apprentissage, c'est le lycée. Alors voilà, donc notre région se situe bien sûr en Europe, donc on a aussi cette notion à faire valoir. Et d'ailleurs, si on a des chiffres, enfin des fonds qui viennent de l'Europe, on doit y finir une politique qui est en axe, c'est-à-dire c'est l'illettrisme, je crois. Il y en a quatre, l'illettrisme, vous me direz peut-être, Dominique. L'illettrisme, c'est les compétences clés, ça correspond à nos politiques, justement, de permettre à des personnes peu ou pas qualifiées d'accéder à l'emploi. Donc, il n'y a pas double emploi. Au contraire, ça vient renforcer ce qu'on fait déjà en région. Hein. Alors, l'Europe, est-ce que c'est un poids administratif? On me dit parfois, moi, je pense qu'il y a des règles. Il faut les prendre et puis essayer de faire en sorte que ce soit le plus facile possible pour conduire nos politiques. Ça ne doit pas être une charge, une surcharge. En tout cas, moi, je pense aussi, là aussi, l'Europe a une impulsion vers l'emploi des jeunes. Et je pense que à tous les étages, que ce soit l'État, l'Europe, les régions, cette lutte contre le chômage des jeunes, on doit tous être ensemble pour faire front à ce fléau. Hein, d'ailleurs, l'Europe a tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps sur le chômage des jeunes. Moi, je lis régulièrement et donc, moi, je pense que les régions sont vraiment en phase. Bien sûr, il y a le volet qui est toujours assez compliqué, mais là aussi, c'est normal de rendre des comptes.
Oui, enfin, je pense que c'est un poids administratif qui est un enjeu réel. Après, dans les interactions de gestion des transitions professionnelles au quotidien, je ne pense pas que ces règles-là aient un effet majeur. Je voulais juste, mais vous l'avez souligné pour rebondir sur ce que vous dites, le problème des jeunes, ça fait quasiment 50 ans quand même. Ça fait quand même quasiment 50 ans. Et si on regarde, par exemple, les débats parlementaires, Gilbert Granval, en 65, il dit que la priorité nationale, c'est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. On est en 65, quoi. Donc, voilà, c'est un domaine où, très régulièrement, on le transforme en priorité nationale, en cause nationale. On fait du chômage des jeunes un enjeu majeur. Bon, ça fait 50 ans que ça dure, oui, cette affaire.
Un mot sur la dimension européenne. Je pense que l'influence des orientations européennes sur les dispositifs français a été très forte. Le socle commun des compétences et des connaissances, c'est une traduction à la française, certes, moyennant un processus d'interprétation spécifique du socle des compétences européens. Et vous mettez en parallèle les deux dispositifs, vous verrez que, bon, on sent bien qu'il y a eu en tout cas une influence. Vous prenez la loi de 2009 sur l'orientation et la formation tout au long de la vie, elle est justement le vocable formation tout au long de la vie est directement une production européenne. D'ailleurs, lifelong learning, la traduction officielle en français, c'est pas formation tout au long de la vie, c'est éducation et formation tout au long de la vie, hein, puisque le vocable learning renvoie donc à quelque chose de plus large, hein, que la formation, ça rabat sur formation professionnelle initiale et continue. Ça, c'est l'acception française, c'est intéressant. Mais dans l'acception européenne, elle est un petit peu plus large et balaye l'ensemble des apprentissages. Et ça fait bouger donc les choses et les débats et les manières de voir en France. Si on prend effectivement les indicateurs, là aussi, on l'a vu ce matin, ça a impacté directement donc les critères. Hein, la LOLF hein, traduit à sa manière les orientations européennes. Et ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, pour le débat public, c'est le fait que la méthode ouverte de coordination en matière d'éducation et de formation a obligé à regarder conjointement plusieurs indicateurs, c'est-à-dire effectivement le taux de diplômés, le taux de chômage des jeunes et le taux de chômage relatif des jeunes par rapport aux autres catégories, et enfin la détention ou pas de compétences mesuré par PISA. On peut critiquer PISA, mais si vous prenez les trois indicateurs ensemble, que vous positionnez les différents pays, ça vous apprend quand même un certain nombre de choses, quoi. Et il y a eu, en Allemagne, il y a eu le choc PISA. Hein, ça a été un choc. En 2000, ils avaient des résultats assez médiocres. Et ça a engendré aussi une réorientation, donc des politiques assez fortes.
Alors maintenant, il y a plein d'autres questions de la salle. Oui, voilà. C'est peut-être l'heure qui n'est pas propice aux questions. Donc s'il n'y en a pas, eh bien, écoutez, je vais clore cette table ronde et cette journée d'études en remerciant particulièrement tous les intervenants qui ont accepté de venir et les remercier pour la qualité de leurs interventions. Merci beaucoup et puis voilà, une autre rencontre. Pas trop frustré, messieurs.
C'est dommage qu'il n'y ait pas eu.
Oui, oui.